Le goût de M. M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Pour le savoir, cette semaine, le goût de M s'est rendu sur la côte d'Opale, à Merlimont, plus exactement, une station balnéaire populaire à quelques pas du Touquet. C'est là qu'Alexandre Gauthier vient d'ouvrir sur mer son nouveau restaurant, une brasserie face à la mer qui sert des poissons, des moules et des fruits de mer. Alexandre Gauthier est chef, vous l'aurez compris, on le connaît pour la Grenouillère, le restaurant familial qu'il a élevé au rang d'œuvre d'art, 2 étoiles au Michelin aujourd'hui, situé à Montreuil-sur-Mer, à quelques kilomètres de là. Alexandre Gauthier, c'est une voix singulière dans la cuisine contemporaine. Il cultive volontiers un goût de la dissonance, une cuisine qui ose, qui invente, dans une démarche finalement plus proche de celle de l'artiste, qu'il adore, que celle de l'artisan. Alors créativité, goût, geste, parcours, rupture, territoire, on va en parler dans cet épisode. Le vent souffle fort. À Merlimont, on se gare face à la mer, sur le parking, juste au-dessus du restaurant. On y est. Bonjour monsieur.
Allez, bonjour, bonjour madame, monsieur. Vous êtes la bienvenue.
Sur mer, Alexandre Gauthier, c'est par là ?
C'est... Ça doit être par là, oui.
Ouais. Bonjour.
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 Bienvenue.
Merci.
À sur mer, à Merlimont-Plage.
Le restaurant qui va ouvrir dans quelques jours, là, à l'heure où on enregistre. C'est un espace qui vous ressemble ici ?
Le lieu ?
Ouais.
Ah oui, ça me ressemble.
Oui, ça me ressemble.
Oui, c'est un lieu qui me ressemble parce que il est, j'ai sauté juste. Il est entre l'étal du poissonnier et le bateau qui va prendre la mer et le large. On rectifie un mensonge de mon enfance. J'ai grandi à Montreuil-sur-Mer. Il n'y a jamais eu la mer. Voilà, on est venu s'installer à Merlimont à 15 minutes de Montreuil.
Il ressemble à quoi ce restaurant ?
C'est un bateau. On a vu sur la grande plage de la côte d'Opale, avec la mer est en train de monter. Il y a une petite houle et on est dans un endroit lumineux. Et aujourd'hui, c'est pas baigné de soleil, mais c'est juste un peu venteux, avec quelques gouttes de bruine.
On s'est installé autour d'une des tables de ce très beau restaurant, blanc, bleu, qui reprend volontiers certains codes architecturaux des années 50. Face à nous, la plage, la mer, à perte de vue. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Le goût de mon enfance, j'ai envie de vous dire que ça serait... La Côte d'Opale et le Jura.
Ouais.
Ce sont les deux endroits où j'étais expédié quand j'étais en vacances, pendant que mes parents travaillaient dans le restaurant. Moi, avec mon petit frère qui avait 20 mois de moins que moi, on était expédié tous les week-ends et les petites vacances à Condette, donc sur la Côte d'Opale, un petit village juste en dessous de Boulogne-sur-Mer.
Donc c'est pas très très loin de là où on est ?
Non, ouais. c'est à 20 minutes. C'est ma grand-mère qui y habitait, qui était ma grand-mère maternelle. Et sinon, j'allais pour les vacances plus longues, j'allais dans le Jura à Rochefort-sur-Nenon, chez mes grands-parents paternels. C'est l'endroit où, qui a vu mes vacances, qui ouais. a vu toutes mes vacances. Et donc c'est l'endroit où tout ce qui était hors quotidien était pris, était vécu. Et évidemment, comme souvent, les grands-mères étaient des grandes cuisinières. on s'est régalé. Mais ce goût, ce sont des odeurs, des goûts, des hommes et des femmes qui m'ont accueilli, qui étaient de la famille ou pas de la famille et avec qui on a partagé. Je ne veux pas dire que j'ai une nostalgie de ça, mais quand même, ça m'a construit.
Votre père, il était originaire du Jura, vous disiez, de cette région. Il était restaurateur aussi.
Papa, il n'est pas déraciné, hein, parce que c'est lui qui l'a choisi. Il était jurassien, il est parti à 14 ans faire l'école hôtelière à Strasbourg. Et souvent, quand on sort d'une école hôtelière, il avait un chef de cuisine qui l'a comme un mentor un peu, qui est venu ouvrir un lycée hôtelier qui était au Touquet, qui existe toujours. Et quand il l'a suivi, parce qu'il y avait une saison à faire, et donc il a trouvé un restaurant pour faire une saison. Et il y avait une jeune caissière, et c'était ma mère. Et donc finalement, ils se sont installés, ils ont vécu à droite à gauche dans des restaurants ici, puis ils sont partis à Londres, et puis finalement ils ont racheté une auberge qui est devenue la Grenouillère.
Et vous, quand vous étiez enfant, vous aviez quelle perception de lui comme cuisinier? Vous le voyez très absorbé dans son métier?
Bah, c'est assez bizarre parce que finalement je retransmets, on fait la même chose tout le temps, je retransmets le même schéma. Il commençait tôt, il finissait tard, le quotidien c'est de l'absence, le quotidien c'est du travail, le quotidien c'était une nounou pour moi, ouais. Avec mon frère qui nous gardait à la sortie de l'école, on le croisait une demi-heure sortie de l'école, et puis voilà, les journées de congé c'était le mardi soir et le mercredi, c'était notre week-end, et ce mardi soir et mercredi, bah, ils étaient vécus, on allait aux champignons, on allait se balader à la plage, avec ma mère ils se reposaient, et on faisait des choses simples, quoi, mais voilà. Et c'était notre dimanche, ça, finalement. Ouais. Mais à l'heure de manger, on avait Fredo, qui était le plongeur de papa, qui nous ramenait une gamelle tout le temps, quand c'est pas la nounou qui faisait à manger. Cette nounou s'appelait Anne-Marie. Elle m'a gardé, moi, de 4 ans à 14 ans, j'ai envie de vous dire, ouais, 13 ans, quasiment 10 ans de ma vie à gérer un quotidien et à prendre part à une part de notre éducation aussi. Donc voilà. Ouais.
Vous avez grandi dans la Grenouillère. Vous habitiez là, vous habitiez à côté, vous habitiez.
J'habitais à côté. Bah, les premières années de ma vie, quand j'étais un bébé, c'était dans la Grenouillère. Après, à 200 mètres. Et après, dans une petite maison à Montreuil, que mes parents louaient, rue du Général Poté. Et on a passé 10 ans ou 12 ans là, jusqu'à ce que mes parents prennent des chemins différents.
Votre mère, au départ, travaillait à la Grenouillère, avant que vos parents se séparent en tout cas. Est-ce qu'elle avait d'autres centres d'intérêt que la cuisine, en fait? Il y avait d'autres trucs qui l'intéressaient, qui l'animaient?
Ma mère est une anxieuse, donc mais les deux l'étaient. Enfin, je pense que finalement, le vrai centre d'intérêt, c'était que les clients soient contents. Et il y a quelque chose dans ce métier qui est un engagement du quotidien, un engagement sans compromis finalement. Chaque jour est une répétition permanente, qui est un jour sans fin, aussi bien pour le cuisinier qui était mon père, ou pour cette directrice de salle, cette maître d'hôtel qui était ma mère, cette patronne de restaurant. J'aime pas bien le mot, mais on voit très bien cette caricature, mais presque ce stéréotype du couple qui reprend un lieu, monsieur à la cuisine, madame devant. Fait qu'à un moment donné, ça ne s'arrête jamais. Et c'était vraiment ce qui rythmait la vie de mes parents et finalement notre vie à travers ça, parce que nombre de promesses pas tenues, de choses à faire qu'on n'a jamais pu faire parce qu'il y avait un contretemps, un épuisement.
Vous lui en vouliez à ce restaurant ou...
C'est très compliqué ce que vous me demandez, parce que finalement, ce que vous me demandez de sortir des choses de moi, qui est un schéma que je reproduis dans la totalité face à mon fils.
Le fait d'être très occupé dans votre métier.
Peut-être totalement absorbé. Donc non, il y a peu de place à d'autres choses. La seule chose, s'il y a peut-être une dernière chose qui laissait de la place, c'est que mon père a démarré à aimer l'art, et il aimait avec ma mère acheter quelques tableaux qui, d'un seul coup... ouvrez la porte à une culture supplémentaire, j'ai envie de vous dire, des peintres de l'école de Berck-sur-Mer, qui sont, voilà, et des Charles Roussel, je ne sais pas, quelques-uns, mais qui, d'un seul coup, ils aimaient regarder ces tableaux et tout ça. Donc ça, c'était une sorte, fait partie de leur goût et de peut-être aussi, d'une certaine façon, d'être d'un ascenseur social aussi.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Là, on est sous une verrière qui a été la terrasse du bar de la plage dans les années 50 à Merlimont-Plage. On retrouve les poteaux de style de cette architecture du style international. C'est un lieu qu'on a...
Années 50, le Corbusier.
Exactement. Et que moi-même, j'ai transformé pour l'appeler Surmer. On est dans un lieu qui vient d'être fini.
Tout est blanc, quasiment blanc. Enfin, blanc, il y a du bleu marine. L'eau peut venir vraiment taper contre les vitres. Donc ça a été un défi aussi.
Quand c'est des grosses marées, il suffit que la houle soit frontale, donc de plein ouest. Et bien, évidemment, les vagues peuvent taper sur la verrière les jours de tempête. Là, vous avez le bar sur votre droite avec la cave à vin, les bières, les cocktails. C'est ce que vous avez envie de voir. C'est
une mosaïque de pêcheurs.
Une mosaïque de pêcheurs, des tales de pêcheurs, qui est une mosaïque comme il y a sur les étals de poissons à Étaples ou à Boulogne. C'est-à-dire que sur les ports de pêche, les bateaux sortaient leur pêche du jour et les dames rejoignaient leurs maris et finalement commençaient à vendre le poisson, les crustacés, ce qui avait été pêché finalement. Ils le préparaient, je vais pas dire aux badauds, mais aux gens qui venaient faire leur course. Et voilà. Et c'est toujours le cas. Je parle au passé, mais finalement, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et donc finalement, ce sont des codes d'ici. Ce sont des esthétiques d'ici.
Ouais, et voilà. Ça, c'est important pour vous justement de mélanger des esthétiques d'ici et populaires avec.
C'est juste être cohérent et juste par rapport à l'endroit qui nous accueille, être dans un endroit qui a du lien, du sens et qui est enraciné. Savoir où aller, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est important de pouvoir justement réutiliser les codes des architectures qui étaient justes à l'époque. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on est moins juste aux architectures parce qu'on est vite dans le design et le machin. Mais finalement, le design et le machin, c'est des choses qui passent et les modes passent.
vous pensez à vous? Qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous?
Moi, j'ai aimé le ski, j'ai aimé le scoutisme, j'ai aimé...
Ouais, vous avez été scout longtemps, vous.
Ouais, 10 ans, 12 ans. Ça a construit l'homme que je suis devenu, je pense. Ça a construit des amitiés très fortes. Pas forcément des amitiés du quotidien aujourd'hui, mais des amitiés qui peuvent appeler à n'importe quel moment. Il y a des choses qui ont été promises à cette époque-là qui, bizarrement, ne seront jamais effacées. C'est assez fort, c'est assez bizarre d'ailleurs. Le goût du dépassement de soi-même, le goût de ne jamais faire les choses à moitié, le goût de...
La débrouille aussi, non?
Du système D.
Ouais.
Et vraiment de la débrouille, de trouver des solutions et de trouver des solutions à tous les problèmes qui voilà, ouais. Il pleut. Et accepter les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il pleut, on va être mouillé. Ces jeunes garçons, mes amis, là. Une fois qu'on faisait les camps scouts, après on se retrouvait après plus tard, adolescent, et on partait faire de la montagne ensemble, là on a de la moyenne montagne. Là, j'ai fait de la haute montagne avec mon père à l'âge de 16 ans, et j'ai fait plus tard le Kilimandjaro 10 ans plus tard, mais avec passion. Et j'aime ces sports finalement, j'aurais dire minimalistes, parce que finalement c'est une bonne paire de godasses, une bonne paire de chaussettes pour pas avoir des cloques, et puis après...
C'est parti quoi.
Voilà, c'est parti.
Vous aimiez beaucoup les récits d'explorateurs aussi, Jack London, enfin Gros-Blanc, des choses comme ça. Ça vous a plu beaucoup quand vous étiez ado?
Je lisais ça et j'aimais beaucoup ces cons qui rendent l'inutile, ces hommes ou ces femmes et beaucoup d'hommes qui ont gravi des sommets pour rien, juste parce qu'il est hanté et que pour certains pour être les premiers et d'autres juste pour trouver justement cette voie dans cette montagne qui les amène au sommet et qu'une fois qu'on est au sommet, malgré tout, on n'était pas arrivé parce qu'il fallait redescendre. Bon, y a un goût comme ça de l'effort permanent, un goût de l'effort et d'oser des choses, prendre sur soi. Il y a des récits incroyables. Je pense à René Desmaisons, à Gaston Rebuffa, à Walter Bonatti, voilà, qui sont des hommes qui ont sillonné le massif du Mont-Blanc, puis après l'Himalaya.
C'est vers 16 ans que vous décidez que vous allez devenir cuisinier. Vous faites l'école hôtelière du Touquet. Qu'est-ce que vous en gardez de ces années d'apprentissage? Après, vous allez aller dans plusieurs maisons aussi, mais...
À l'école, finalement, on vous apprend à devenir un artisan, un ouvrier, j'ai envie de vous dire. Un ouvrier qui va être qualifié et qui va apprendre à décoder un code et à le mettre en œuvre. Dans mon métier, ça s'appelle une recette. Et trouver les tours de main. Et donc, on vous répétait des tours de main pour réussir à les exécuter. Mais j'aurais pu apprendre à faire une soudure pour être plombier. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, à cet endroit-là, on vous apprend un répertoire plus ou moins basique, qui est la racine de ce métier. La base. Et après, en avançant, d'année après année, de rencontres avec des cuisiniers, des enseignants, puis après de stage, vous perfectionnez. Je pars travailler après mes écoles, et c'est en allant travailler dans des grandes maisons, avec des gens que je respecte beaucoup, hein, qui ont des très beaux parcours. Mais malgré tout, ce que je vivais là-bas me convenait qu'à moitié, et leur façon de vivre eux-mêmes me convenait qu'à moitié. Alors, est-ce que moi, ce que je fais mieux aujourd'hui, j'en ai aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais pas envie de... J'en ai appris, voilà, ce que je voulais pas devenir, quoi, finalement.
Ouais, puis c'est aussi peut-être cette idée de la transmission qui passe par des gestes très répétitifs aussi. Vous en avez souvent parlé dans le vocabulaire, pas qu'un vocabulaire d'ailleurs, mais très militaire en fait. On parle de brigade, on parle de choses comme ça. Et c'est des choses, vous, aujourd'hui, que vous avez complètement remis, enfin, vous avez fait autrement, justement. Tout ça, c'est des choses qui vous correspondaient pas tout à fait.
C'est difficile de parler d'émotion et de sensibilité quand vous faites régner la tyrannie et une hiérarchie bête et méchante dans un lieu. Malgré tout, je me fais appeler chef. Il y a une côté tradition dans ce métier où le leader est appelé chef, et bon, c'est comme ça. Mais malgré tout, en revenant, il fait régner plutôt une bonne humeur, plutôt de parler de cuisine, plutôt d'autre chose, plutôt que de sujets qui n'ont rien à voir et qui ne font pas grandir, de parler de ne pas avoir de geste d'humeur, de ne pas être grossier, d'être dans le respect de l'un et de l'autre, et puis faire qu'à un moment donné, penser à une cuisine qui soit... pas dans la douleur physique ou dans la performance brutale, mais plutôt dans une performance émotionnelle et émotionnelle. Ça veut tout rien dire, mais je veux dire une justesse, une délicatesse de réalisation, des gestes précis. Et voilà, on ne jette pas des casseroles, on n'est pas obligé de faire du bruit pour montrer qu'on travaille, quoi.
À l'époque, après votre formation, vous admiriez quand même Michel Bras et Pierre Gagnaire. C'était des gens qui étaient très importants pour vous.
Ces deux hommes... exprimer que la cuisine était un moyen d'expression. Et ça, on a beau le lire, on a beau un peu vous l'expliquer, on a beau l'avoir écouté, malgré tout, quand on est cuisinier à l'école, quand on est jeune étudiant, c'est quelque chose qui veut rien dire, quoi.
On ressent pas ça.
On réalise une recette, quelque chose qui a été fait par d'autres, et à quel moment on est dans une justesse, on sait pas. Donc on est à la justesse quand on a réussi son assaisonnement, quand la recette est aboutie au bon endroit. C'est une feuille blanche. C'est comme si, je sais pas, raconte une histoire sur une feuille, de où on part, qu'est-ce qu'on va raconter. Et finalement, cette cuisine, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on veut amener, et quelle est la justesse de goût qu'on veut amener. Il faut un peu de maturité, mais il a fallu un an de retour à la Grenouillère en 2003 pour donner un coup de main à mon père.
Oui, votre père, bon, il perd son étoile, c'est ça ?
En 2001.
Il a des problèmes 2000. Financiers, du coup. Et vous, il vous appelle un peu à la rescousse, quoi. Vous êtes jeune cuisinier à l'époque.
J'ai 23 ans, je travaille sur la Côte d'Azur. Je pense pas revenir, parce que, comme souvent, j'étais content un peu de m'être désenclavé.
De découvrir d'autres choses.
Ouais, de mon Pas-de-Calais. Et finalement, papa me demande un coup de main. Je suis pas au courant qu'il y ait des problèmes financiers. Je pense qu'il a un problème de qualité avec ses équipes et tout ça. Il veut, voilà, et il vient me faire comprendre que c'est maintenant ou peut-être plus jamais, quoi. Donc, je dis, je remonte. Puis je pense revenir une année ou deux. Et puis finalement, je suis jamais reparti.
Vous avez donner forme, on va dire, à votre goût ici, parce que votre originalité, votre radicalité que vous pouvez avoir en cuisine, elle est née aussi de cette nécessité de sauver cette table qui était en difficulté, hein, de la Grenouillère. Et au départ, vous dites, quand je suis revenu, j'ai fait un peu avec ce qu'il y avait, le savoir-faire de mon père, ce que j'avais appris dans les maisons. Et puis, petit à petit, vous avez fait aussi une espèce de table rase, en fait.
J'ai appris à désapprendre. Donc c'est exactement ça. La première année, j'en rougirai aujourd'hui. C'était un melting pot de tout ce que j'avais appris partout. Et finalement, ça n'avait ni queue ni tête. Si j'étais objectif, ça n'avait ni queue ni tête. Et à cette époque-là, après, il y avait une époque, c'est, on appelait la cuisine fusion. On utilisait les produits français avec des techniques de plus loin, exotiques. Et finalement, il y a eu un festival qui s'appelait Omnivore, qui a eu lieu au Havre en 2005.
2005,
oui. Et où là, j'écoutais les autres cuisiniers, évidemment plus âgés que moi, parler et qui mettaient des propos à des actes et des actes sur leurs propos qui, pour moi, n'étaient pas bien cohérents. Et moi, alors, ma cuisine contemporaine. Et finalement, ma cuisine contemporaine, les produits, ils venaient d'ailleurs. Et c'est juste la surprise, elle venait juste parce que les produits sont des saveurs qu'on mange pas tous les jours, vu que les produits n'étaient pas d'ici.
Exotisme, quasiment.
Que l'exotisme. C'était une cuisine exotique. Et là, je suis revenu et j'ai dit, je me suis mis un cadre de travail en disant, le local. Ce terroir qui était... Là-bas, on parlait pas de territoire, on parlait de terroir ancré, qui pour moi était trop folklorique, très ancré dans des traditions marquées. Ici, c'était l'endive, le maroilles, la chicorée, le hareng, ce goût un peu comme ça, comme si on caricaturait l'Alsace à une choucroute. Et nous, c'était un peu pareil pour ce territoire ici. Et donc, j'ai compris que ce terroir n'en était pas un, mais c'était un territoire, et que dedans, il fallait intégrer les savoir-faire des hommes et des femmes qui le faisaient vivre, et qu'il fallait y mettre la chasse, la pêche, la cueillette, l'agriculture, de tout, le maraîchage, l'élevage, tout devait intégrer ça. Et donc, ça ouvrir carrément le spectre des possibles, le champ des possibles, et que ça devienne de la matière à cuisine, tout ça. C'est-à-dire que, je vais faire une endive. S'il faut faire une endive, ou qu'est-ce que je fais pas une endive, je vais pas faire une endive, mais je vais aller chercher une barbe de capucin, qui est elle aussi une chicorée, qui pousse aussi sous terre, dans des caves incroyables. Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que j'en ai pas fait? Et souvent, c'est casser les a priori et les certitudes, de on se dit, non, mais ça, on peut pas le faire comme ça. Pourquoi? Pourquoi on le ferait pas comme ça, finalement? Et en fin de compte, si on s'aperçoit, c'est que on est très arrêté par nos éducations judéo-chrétiennes, finalement, d'une base qui met des bornes partout. Et puis, finalement, il suffit juste de sauter la barrière et de s'apercevoir que derrière le champ, on peut courir comme on veut dans tous les sens.
Ça veut dire que vous dites que vous êtes beaucoup réintéressé aux produits qu'il y avait autour de vous. C'est-à-dire que l'important, c'était justement d'arriver à toujours se demander comment le réinventer, comment prendre un contre-pied, enfin, par rapport à cette endive, cette pomme de terre, cette...
Le contre-pied, une lecture neuve, et après aussi être capable de venir, finalement, souvent les cuisiniers sont souvent des spécialistes du produit, parce que justement, à chaque maturité, le produit n'a pas le même goût, la même texture, la même fermeté, et ça, il faut être capable de discuter avec, par exemple, les maraîchers, et d'aller leur demander, leur dire que, est-ce que, par exemple, je me souviens d'avoir un débat compliqué que j'ai réussi à pas gagner, parce qu'à emporter, on va dire, par la confiance que ces hommes et ces femmes... Voilà, il y a des fraises dans le coin, à Montéchor et à Samé. Et au début, je me souviens d'un hiver qui n'en finissait pas et où le printemps ne démarrait pas dans la cuisine. Et les fraises ne mûrissaient pas. Donc il y avait des fraises et les fraises étaient vertes. Et je me dis, mais tant pis, je veux qu'il y ait du printemps. Et une fraise verte, finalement, c'est une fraise qui n'est pas mûre, mais c'est une fraise qui, malgré tout, qui est pleine d'acidité fruitée, qui n'a pas de sucre. Elle est verte, elle n'est pas rouge. Et donc, ça, on en a fait une entrée. Je me souviens que le taillage, l'avoir taillé très, très finement, l'avoir servi avec des coques, on peut faire plein de choses comme ça et se dire que... Mais ça, il faut être aussi en complicité avec, justement, les producteurs, les éleveurs, les maraîchers, qui, eux, nous sont prêts à arrêter le stade de maturité, cueillir une petite courgette à tel stade ou l'avoir très grosse, des fleurs de courgette, faire pousser de l'oxalis, faire que les radis, on les veut en aiguille, donc les tout petits radis au démarrage pour faire quelque chose, voilà. Et on va pas attendre qu'ils pèsent 80 grammes pièce pour commencer à les commercialiser, qu'il y a un moyen de trouver tout ça, ou qu'on va aussi planter des rangées de pois ou de haricots, et que le haricot ne va pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est l'avant, c'est-à-dire la fleur qui ressemble à une fleur de presque une petite orchidée, et c'est une fleur croquante, légèrement sucrée, et qu'on peut faire une salade de fleurs de haricots, et que c'est juste fou, et que c'est un luxe incroyable que de manger de la lumière, de la couleur, et que ça se cultive, et que c'est
ouais,
et que
ouais.
Voilà. Mais ça, il faut. Oui, quand on cueille une fleur, c'est 4 haricots qui ne pousseront pas. Et donc, il faut réussir à avoir poussé, avoir mis en place un échange et une confiance.
Vous disiez au départ, on parlait de terroir au début des années 2000, tout ça. Puis vous, progressivement, vous avez commencé à parler de territoire. Et vous dites, ma cuisine, elle est la photographie physique, morale et mentale d'une saison, d'une terre et d'une météo propre à la Côte d'Opale.
Je vous dis de la météo, tout ça, ça veut dire que malgré tout, s'il fait beau ou pas beau, on a vu d'une cuisine plus, peut-être, je ne vais pas dire plus confortable, mais presque, je veux dire, plus sensuelle, alors que s'il fait très chaud, on aura d'avoir une fraîcheur, une acidité, quelque chose qui nous booste. Et ça va dépendre aussi de notre humeur. De tout ça, ça joue. Et nos idées émergent de ça. Et donc, à nous, après, de faire qu'elles prennent vie physiquement dans une assiette.
Dans votre cuisine, il y a une vous diriez qu'il y a une radicalité, il y a une surprise, il y a une impertinence, il y a quoi ? Enfin, comment vous la définiriez ?
Bah, il y a tous ces mots parce qu'il faut parce qu'on
laisse
de la place à de la dissonance, on laisse de la place à de la sensualité, on laisse de la place à une acidité vive et incisive. Mais tout ça, c'est pas dans le même plat. C'est-à-dire que finalement, on écrit un menu, dans tous les cas, la grenouillère, on écrit un menu comme une symphonie avec des moments avec des ruptures, des points hauts, des points plus bas. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas obligé de hurler les saveurs tout le temps. On n'est pas obligé de hurler. Ou de parler fort tout le temps. On peut chuchoter, on peut murmurer, on peut venir créer une apostrophe, un silence, et puis repartir plus fort, histoire de. Le mangeur à table, on doit le tenir éveillé, on doit le tenir en alerte, on doit le tenir concentré, et pas laisser la conversation, que je prends souvent comme ma première concurrente, prendre la partie de ce moment-là. Voilà, à quel moment, si la conversation du quotidien rentre dans une conversation d'un couple, ou d'un échange, ou d'une table, finalement. Mon travail ne devient qu'accessoire. Il faut l'accepter. Je suis un restaurant. Je sais très bien que voilà, c'est comme ça. Ils auront bien mangé, les gens. Mais après, est-ce qu'on aurait été plus loin dans ce que nous sommes, cette découverte du territoire. On dit de voilà ce qu'on vous propose avec les deux mains jointes. En disant, on est là que pour vous. Bah, voilà, suivez-nous. Et pour les réussir à les faire suivre, il ne faut pas qu'ils s'ennuient. S'ils s'ennuient, ils décrochent.
Mais vous parlez souvent, le mot il revient souvent, de sensualité, de libido aussi, de créer des moments même aphrodisiaques. Vous dites, bon, les couverts, ça crée de la distance. Moi, je aux gens qu'ils peuvent toucher les aliments. Enfin, ça fait partie de votre goût, ça, ce fait d'inclure cette part de libido, de sensualité dans.
Parce que je pense que manger face à face ou côte à côte, c'est une grande part de sensualité. C'est-à-dire que amener des choses à sa bouche, ça peut être d'une sensualité comme ça peut être dégueulasse. Donc, il y a des gens qui mangent, ça peut arriver, salement. Mais je veux dire, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'arriver, de toucher le produit, ça n'a rien à voir. Comme mettre de la distance très précieuse, en levant le petit doigt, ça ne ressemble pas du tout à la grenouillère. On a envie que les gens soient proches l'un de l'autre, créer de l'intimité, créer un moment où les gens se sentent en sécurité, en confiance aussi. Ça, c'est un moment important. Et amener les choses à la bouche, toucher les choses, je ne vais pas dire caresser, c'est pas le mot, parce qu'il ne faut pas. Mais se lécher les babines. Moi, je ne parle pas de texture, je parle de toucher gustatif. Je pense qu'entre la langue, les lèvres, les dents, le palais, on peut être dans le moelleux et le moelleux, et pas être dans la même consistance de moelleux, vous voyez. On peut être dans quelque chose de confortable, on n'est pas obligé d'être. On peut être dans différents croustillants, on peut être dans des monotextures qui finalement vont créer des moments de toucher gustatif différents. Il y a quelque chose comme ça de très sensuel, parce que manger, c'est aussi embrasser un produit. C'est aussi, voilà, c'est pas juste le croquer. On croque une pomme, mais on peut mettre à la bouche une pomme comme ça, et malgré tout. Le contact qu'on aura avec les lèvres, c'est que même boire un verre d'eau ou boire un verre de vin, l'épaisseur du verre que vous mettrez à votre lèvre ne changera totalement votre sensibilité à ce qui va, ce que vous allez ingérer. Et donc ça, il faut en être conscient.
Alors depuis la grenouillère, vous avez ouvert d'autres adresses. Là, on est à Surmer, c'est votre nouveau restaurant. Vous avez 5 adresses aujourd'hui. Est-ce que chacun de vos restaurants, c'est une idée avant tout ?
Oui, vous avez raison, hein. C'est une idée. C'est mettre une cuisine dans la bonne case. On essaie d'être des cuisiniers complets. Et l'idée, c'est mettre. Est-ce qu'un pied de cochon a sa place à la grenouillère à un moment donné ? Non. Et mettre chaque chose dans la bonne case. Pied de cochon, ça peut être Frogies. Cuisine de mémoire, parce qu'évidemment, je suis arrivé à la grenouillère, j'ai écarté le travail de mon père pour trouver ma place. Et j'ai eu l'opportunité, quelques années plus tard, de finalement reprendre une adresse et de la transformer, d'en faire un lieu de mémoire qui était le lieu de sa cuisine et qui finalement a toujours un public qui n'est une cuisine qui n'est pas démodée. Qui est une cuisine un peu différente où le légume Le végétal a quand même une part un peu plus d'accompagnement et que la pièce maîtresse c'est plutôt une protéine animale oui. en général, et ça c'était cette époque là qui comme ça, alors qu'à la grenouillère il y a la part belle au végétal et que parfois c'est la protéine qui vient elle rehausser le végétal, c'est à l'inverse un petit peu, c'est cuisine plus c'est l'époque qui veut ça sûrement, mais bon voilà, et on trouve oui, il y a une idée, il y a l'envie d'un lieu, il y a des c'est l'idée, c'est voilà, ces lieux sont de s'adresser à des moments et à des cuisines différentes. Le bord de mer me manquait et je voulais cuisiner le bord de mer de façon élégante et populaire aussi, et trouver un lieu comme ça. On a fait un café parce que je pense qu'un endroit où on peut venir boire un café à n'importe quelle heure de la journée, un café, une bière, un verre de blanc, et manger un plat du jour et un chou à la crème, et ben finalement ça a le mérite d'exister aussi, parce qu'il faut avoir des moments où on se perd pour des moments de vie, et il faut des lieux un peu comme ça qui soient des lieux de tous les instants. Ouais.
Donc ici sur Marc, bon là c'est votre restaurant de plage, enfin, c'est un ancien restaurant de plage qui a été complètement refait. L'idée c'est quoi ici? Vous disiez j'ai envie quand même d'éviter le folklore en fait.
Bah oui non, parce que finalement on va faire de la moule frite qui est quand même l'un des folklores ouais. Marqués quand même, mais on va essayer de mettre une moule frite cuite minute voilà. Avec des frites à la hauteur, des moules à la hauteur, une ambition de faire du poisson côtier, du poisson de voilà, avec des arrivages qui viennent que de Boulogne-sur-Mer, qui est à 20 minutes en voiture d'ici, avec
la modernité elle est où alors en fait ici, elle se situe dans les cuissons, elle se situe dans les sauces, elle se situe
dans la justesse de cuisine,
dans
l'accompagnement, dans ce qu'on appelle quand on accommode les choses voilà. J'ai envie de vous dire que la modernité elle va être que dans le plateau de fruits de mer avec des huîtres de Normandie qui viennent voilà, où on peut faire le tour du Cotentin là. Ces huîtres on peut les manger comme ça, mais que il y a des choses, des idées arrêtées, comme on dit le vinaigre aux échalotes, quelque chose que je supporte pas dans un plateau de fruits de mer, je l'ai dégagé et on y propose plutôt une goutte d'huile d'olive ou de sauce soja ou des petites choses comme ça, que le citron n'est pas forcément jaune, il peut être vert ou ça peut être une goutte de jus d'orange aussi qui peut être dessus, mais pressé à la minute. Il y a plein de choses comme ça, on peut bouger. La modernité elle fait déjà d'avoir une vue sur la mer incroyable, ouais. De proposer le lieu qui correspond à cet endroit et ne pas faire de concession par rapport à ça, et de prendre le pari que finalement on n'a pas besoin d'être dans une station balnéaire ultra connue, même plutôt populaire et familiale, pour montrer qu'il y a de la place pour ce genre de lieu, et de se dire que c'est pas vrai que le bord de mer n'est pas qu'un endroit où les restaurateurs sont là pour faire que de l'argent. On peut aussi faire de la cuisine.
Vous faites toujours les choses autrement. Vous vous demandez toujours comment on peut faire autrement. C'est un truc, ça, dans votre caractère, dans votre...
Je propose que des choses où que je le ferai pour moi, finalement. Finalement, c'est très égoïste. La ligne de conduite, elle est... Si c'était pour moi, si je cuisinais pour moi ou ma famille, ou c'était moi qui... Voilà, je le ferais comme ça. Et pour ma famille et tout. Et donc, j'accueille avec des recettes mes clients comme si c'était finalement des recettes faites pour... Comme si ils faisaient partie de ma famille, quoi.
Vous avez l'impression que ça va être quoi, enfin, la nourriture de demain, la nourriture du futur, comment ça va évoluer?
Je pense que déjà, moi je pars sur le principe que demain se construit au quotidien. J'ai toujours une maxime d'Albert Camus qui dit à peu près cette phrase, c'est que le meilleur moyen d'assurer l'avenir, c'est de tout donner au présent. Et donc à un moment, il y a un sujet et de régler les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 20 ans à la Grenouillère, j'ai jamais travaillé le thon, par exemple. Jamais. Et là, ici, à Surmer, je vais travailler du thon. Parce qu'en 20 ans, il y a 20 ans, quand je suis arrivé, il fallait surtout le protéger, c'était en voie de disparition totale. Oui. En 20 ans, on a coupé les choses et plusieurs cuisiniers, plein de cuisiniers, dont je fais partie, ont arrêté de travailler ce produit pour justement le préserver et espérer qu'il revienne. Et aujourd'hui, on nous dit, on peut retourner. Le thon rouge d'Atlantique Méditerranée, on peut retravailler. Et ben, je dis, ben, on y va. C'est la première fois en 20 ans que je travaille du thon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait les bonnes choses, on apprend en avançant, j'ai envie de vous dire, pour marcher, pour apprendre à marcher, on tombe. Et on fait des erreurs, on va dans une direction, merde, on s'aperçoit que c'est pas la bonne, hop, on fait un peu de demi-tour et on prend une autre direction. Parce qu'aujourd'hui, le monde avance et qu'il y a des vrais sujets climatiques, il y a des sujets d'environnement, de durabilité, il y a plein de sujets. Nous, on doit devenir free plastique et tout ça. Et donc, finalement, il y a plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut à tout prix que la ruralité reprenne, j'ai envie de dire, le pouvoir sur le consumérisme d'un supermarché où on achète un emballage et que cet emballage, on l'ouvre et on mange ce qu'il y a dans l'emballage. Il y a un truc qui marche pas. Et qui, malgré tout, il y a un lobbying tellement fort qui oriente et c'est tellement facile de se nourrir comme ça. Je pense que demain, finalement, les gens, j'espère, je dis ça, mais en même temps, c'est même pas vrai parce que pendant le confinement, le bio a explosé et là, on sent bien qu'avec le pouvoir d'achat, le bio est en pleine crise. Il y a un sujet, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens pour qui le luxe n'est plus, ce n'est plus de manger de la viande, par exemple, plus de protéines. Et pour d'autres, un luxe, c'est quand même encore de mettre un steak par semaine dans l'assiette. C'est-à-dire qu'il y a une rupture sociale qui est quand même importante aujourd'hui, une rupture, oui, une fracture, et qu'à un moment donné, on pense pas à la même chose, et que voilà, et que moi, on me dit, mais pourquoi tu vas travailler le poisson alors que voilà, et pourquoi tu travailles encore la viande à la grenouillère? Je dis, mais moi, ces gens-là, je leur serre la main, aux pêcheurs, aux éleveurs. Est-ce que ces gens-là, on leur dit, vous n'êtes plus à la mode, on vous laisse mourir? Il faut aussi continuer à avancer et les faire progresser. C'est leur dire, bah, on avance, je négocie. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, on allait voir les producteurs, puis on essayait de négocier les prix parce qu'on n'avait pas des grosses marges. Alors, c'est fini cette époque. Mon travail aujourd'hui, il est combien ça vaut, puis c'est tout. Que tu gagnes bien ta vie. Il faut que ce soit raisonnable, raisonné pour tout le monde, pour moi évidemment, mais surtout pour eux, qu'ils puissent vivre de leur travail. Et ça, c'est une justesse. Si tout le monde finissait par vivre correctement son travail dans l'élevage, dans la terre, dans cette filière alimentaire, surtout ceux qui sont à la base, ça serait super. Éviter les intermédiaires. Mon travail, il est aujourd'hui de travailler le plus en direct possible avec eux. L'approvisionnement est une bataille du quotidien, parce qu'il faut justement être dans une souplesse pour moduler le menu, moduler de façon très régulière, quoi. Donc voilà.
Le goût de M.
Sur le pont.
Voilà. Le pont du bateau, par contre, sur le toit du restaurant, qui est au niveau de la route. Vous savez, là, ça sent la mer, là.
Ouais, ah ouais.
Et en fin de compte, sur le pont, ça va être l'endroit qui va... La journée va être un endroit, un bar, avec quelque chose de... Juste pour boire une bière, boire un verre. Et voilà, et là, on a une vue incroyable entre... entre Berck, qui est sur votre gauche, et 12 km plus loin, le Touquet de l'autre côté. Ouais. Il y a deux stations balnéaires entre les deux, il y a Merlimont-Plage où on se trouve, et Stella. Et si vous allez plus loin, un jour, quand il fait très beau, on va voir jusqu'à Ardelot, qui est plus loin, et sur votre gauche, on peut voir même les falaises de Holt, qui sont là-bas, donc vraiment le début de la Normandie, on va dire, vraiment, c'est la Somme, et Holt, c'est le début des falaises qui vont arriver jusqu'à être tard. Donc c'est assez loin, et quand la lumière est belle et que c'est dégagé, on a un panorama incroyable. Et donc voilà, et ici on est sur un pont, le pont transatlantique, où vous vous mettez, vous sirotez ce que vous voulez, vous regardez simplement, vous regardez juste le vol des mouettes ou la mer monter ou descendre. C'est assez amusant parce que c'est une ville qui a été construite pour les congés payés ici. Et c'était les sociétés minières qui ont acheté un bout de terrain de chasse à je sais pas quel noble du coin et qui ont donné des parcelles à 10 architectes différents de styles très marqués. Il y a 10 styles de maisons qui se partagent et tout ça avant 1950. Et ça, c'est assez joli.
Là, on est dans votre restaurant sur mer, on est dans la salle là, du restaurant. Tout à l'heure, je mentionnais la grenouillère, vous aviez fait intervenir Patrick Bouchain. Là, l'architecture aussi, elle est très belle. C'est important pour vous, ça, les espaces, l'architecture, c'est quelque chose... Vous avez le goût de ça?
Patrick, aujourd'hui, il a 76 ans, je crois, hein, Patrick, et c'est mon aîné, largement, et donc j'ai aimé cette conversation transgénérationnelle, j'ai aimé le fait, son humilité d'être dans une conversation et de se dire, à la grenouille, je ne sais pas ce qui est de lui ou de moi, et d'être vraiment dans quelque chose qui se nourrit au quotidien, dans une conversation pour réussir le lieu. Patrick m'a fait prendre conscience que l'architecture était de la cuisine, justement, et que lui-même, on faisait le même métier, et qu'il ne suffisait pas
d'ingrédients,
juste une recette bien écrite et que ça laisse réussir. Si les ingrédients étaient là et que la recette était là, au moment où on cuisine, au moment où on épluche, au moment où ça saute, est-ce qu'on met plus de ci, plus de ça? Ça se joue, c'est voilà. Et qu'au moment de la construction, il y a l'idée de base, mais qu'il faut être dans le chantier, sur le chantier, l'habiter, pour réussir à trouver les choses et faire que finalement, qu'est-ce qui marche dans ce lieu-là, sur là, c'est que. Mais il n'y a pas d'erreur qui saute à vos visages parce que c'est, tout est sur mesure finalement. Et après, il m'a fait comprendre. Parce que en venant comme ça, notre légitimité de cuisinier ne me permettait pas, en effet, comme je vous disais, des gens qui ont des diplômes, donc ces diplômes les légitimisent. Et Patrick m'a fait prendre conscience qu'en fin de compte, non, il fallait que ce que je mettais moi dans mon assiette, c'est la façon de construire, d'architecturer mon assiette. Je dis toujours, il me pose la question, comment tu sais que c'est fini? Je dis quand je peux plus rien retirer. Et là, il me dit, mais tu vois, l'architecture, c'est pareil, c'est fini quand tu peux plus rien retirer. Et il dit, cet œil que tu as dans ton assiette, tu dois le développer partout dans ton lieu. Si tu as le moindre doute, c'est que tu dois le prendre en considération, c'est qu'il y a un truc qui coince et que tu dois faire confiance à cet œil.
Est-ce que les artistes, ou les architectes, les artistes, parce que vous côtoyez beaucoup d'artistes, puis vous en citez souvent, c'est des sources d'inspiration presque plus fortes que les autres cuisiniers pour vous?
Ce qui est beau chez un artiste, c'est celui qui défriche.
C'est
celui qui a osé faire la chose la première. C'est celui qui ose prendre un chemin qui n'avait pas été suivi ou l'emmener des fois plus loin. Je pense à à une exposition qui m'a malmené de Gerhard Richter. C'est-à-dire que Gerhard Richter, quand si je me dis si j'avais habité à Munich après-guerre et que j'avais été de sa génération et que je passe devant la galerie dans laquelle il exposait, je me dis mais lui, où est-ce qu'il va ? Sa femme qui descend les escaliers, d'accord ? Une bougie, d'accord ? La mer, d'accord ? Ah, mais il sait pas ce qu'il veut, lui. J'aurais dit, mais c'est tellement d'une exposition à une autre. Elle est où la ligne de conduite ? Elle est où l'identité ? Elle est où Je vois ça et je me dis, mais si j'étais passé devant avec mes certitudes, alors que je pense qu'en effet, dans une exposition, il faut ranger, il faut rien, c'est zéro certitude, je serais passé à côté de l'immensité de cet homme qui a toute sa vie fait que ce qu'il avait envie de faire. La liberté totale, j'ai envie de peindre ça, je vais peindre ça, ça m'inspire, je le peins, dans des styles différents, pour finir à la fin, pour devenir le plus grand abstrait qui existe. C'est-à-dire qu'à la fin, il va plus loin, mais ses abstraits sont fous, il va tout réinventer, et pour les gens, quand on les voit, c'est d'une évidence, c'est d'une évidence totale, et voilà, et depuis, évidemment, mais bon, là, je parle de Gerhard Richter, que je n'ai jamais rencontré, mais je pourrais pas vous parler d'Annette Messager.
Ouais, parce que vous aimez rencontrer aussi les artistes, c'est-à-dire, vous aimez leur œuvre, mais vous aimez aussi les rencontrer, quoi, voir quels humains c'est, enfin...
J'ai la chance j'aime Georges Rousse, j'aime Annette Messager profondément, j'aime le théâtre vivant, Bartabas, je suis très proche de la scène nationale du Chanel avec Francis Peduzzi. Il y a dans cet art vivant, dans cet art plastique aussi, qu'il ne faut pas opposer, parce que c'est pas l'un est destiné aux grandes collections et aux musées, et l'autre, maintenant chacun s'exprime et chacun a besoin, ils ont ça dans leur trip. Je parle de Robert Combas aussi, qui d'un seul coup ne rentre pas forcément dans l'intelligentsia des grands musées français aujourd'hui, alors que c'est une aberration terrible. L'œuvre est majeure et dépasse les frontières. Bon, voilà, mais il y en a plein d'autres. J'ai la chance d'en croiser, j'ai la chance d'en aimer beaucoup et de me nourrir de ça, parce que finalement, ils vont plus loin et ils m'encouragent moi-même à aller plus loin.
Est-ce que vous diriez qu'au cours de votre vie, vos goûts, ils ont beaucoup évolué, ou vous avez l'impression que vous aimez toujours la même chose ?
Non, ils ont évolué quand même, parce que je suis entré dans l'art contemporain par un artiste de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle Georges Mathieu. Je lui écrivais et il me répondait, c'était assez fou. Et j'ai bien compris qu'il fallait pas être monosujet, qu'il fallait s'ouvrir et que les œillères étaient une bêtise et que dans l'art, il fallait justement arrêter toutes les a priori, déposer tous ses a priori sur la porte et ses certitudes et y aller avec beaucoup de fraîcheur, d'humilité et voilà. Et finalement, j'ai envie de vous dire que l'architecture comme l'art contemporain, vivant, ou plastique, sont la matière infinie, nourriture infinie. J'aime me nourrir de ça, vraiment, et font partie de mes soupapes. Je ne sais pas comment dire, ça me rassure, ça fait partie de moi, quoi.
Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût ? C'est un truc qui est important pour vous ou pas du tout ?
Ah, c'est pas que important, parce que ça voudrait dire que ceux qui, je considère qu'ils en ont moins, ne sont pas à la hauteur, mais pas du tout. J'en ai qui ont du goût. J'aime pas les gens qui ont des idées arrêtées. J'ai pas beaucoup d'amis qui ont des idées arrêtées. Ils sont dans une compréhension et tout. Ça peut ne pas être à leur goût, mais ils vont comprendre, ils vont tolérer. Je pense que c'est peut-être bien le souci de notre époque, c'est que cette tolérance, aujourd'hui, elle est de moins en moins ouverte, et que c'est blanc ou c'est noir, et que c'est pas entre deux. Et que je pense que dans tout, que ce soit à table, dans sa façon de s'alimenter, et aussi au cinéma, c'est bien ou c'est pas bien, je pense que le monde est plus complexe, et que le monde est quand même plus beau si on est dans le goût et la compréhension de l'autre.
Vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût, par exemple, c'est possible pour vous ?
On pourrait parler de désir, mais peut-être pas d'amour. On peut désirer quelqu'un dont on n'a pas les mêmes goûts, mais est-ce qu'on l'aimera ? Je pense que c'est compliqué.
Ça serait quoi pour vous, Alexandre Gauthier, avoir du goût ?
Avoir du goût, c'est avoir le goût et l'appétence de se poser et de discuter avec tout le monde et ne pas s'arrêter à avoir le goût de l'autre, simplement.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.